Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Après trois autres villes, Emmanuel Macron a échangé à nouveau ce lundi 4 février à Évry-Courcouronnes avec environ 300 élus locaux, des représentants associatifs dans le cadre du grand débat national. Trois semaines après le lancement du grand débat, quels enseignements peut-on en tirer? Qui est prêt à jouer le jeu? Alors que les Français semblent montrer un certain intérêt pour le grand débat, le gouvernement, lui, réfléchit à l'issue des discussions à organiser un référendum. La pratique démocratique sortira-t-elle d'ailleurs grandie de ce grand débat? Eh bien, ce matin, on reçoit pour en parler l'un des garants de ce grand débat, le politologue et professeur à Sciences Po, Pascal Perrineau. Bonjour. Vous connaissez très bien l'opinion publique, pardon, et la manière dont le jeu politique s'organise en France. Et j'aimerais tout d'abord vous demander, Pascal Perrineau, pourquoi vous avez accepté d'être l'un des garants de ce grand débat national?
Alors, si vous voulez, à la fois pour des intérêts personnels et des préoccupations de citoyens. Les intérêts personnels sont mes intérêts professionnels. Depuis des années, je travaille beaucoup sur ce que l'on a l'habitude d'appeler la crise de la démocratie représentative. J'avais sorti plusieurs ouvrages dont l'un s'appelait « Le désenchantement démocratique ». Et nous sommes bien au cœur depuis des mois, et même je dirais des années, d'un processus de désenchantement de nombre de Français par rapport à ce qu'on peut appeler la démocratie représentative. Et d'autre part, j'avais créé il y a 10 ans un baromètre de la confiance politique. Et année après année, je me disais, mais il est mal nommé ce baromètre de la confiance politique qui mesure chaque année le rapport des Français à leur système politique et démocratique, parce que c'était un baromètre de la défiance. Donc il y a, si vous voulez, cet intérêt professionnel. Et puis d'autre part, il y a une préoccupation de citoyens. On voit bien comment, en France et ailleurs, cette crise de la démocratie est en train de nourrir un attrait pour d'autres types de régimes. Il y a une tentation autoritaire, par exemple, en France. Toutes les enquêtes le mesurent. Il y a, dans des secteurs extrêmement diversifiés de l'opinion publique, aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue sociologique, des gens qui sont tellement déçus qu'ils rêvent d'autre chose et qu'ils rêvent parfois des plaies et des bosses des régimes autoritaires, ou bien, et on peut aussi en être un peu préoccupé, d'un retrait de la sphère publique, d'un retrait de la chose publique. Donc voilà pourquoi je suis là.
Votre regard sur ce grand débat depuis son lancement, qu'observez-vous, Pascal Perrineau, sur le déroulement de ce grand débat?
Alors, il y avait au départ, là aussi, dans tous les secteurs, énormément de scepticisme. Les gens se disaient, mais est-ce que les Français vont s'en emparer? Les Français s'en emparent, de manière claire. Je regardais encore hier les statistiques, 9000 cahiers de doléances ou de cahiers citoyens, des centaines de milliers, 700 000 contributions sur le site national, des réunions d'intérêt local. Ce sont les débats qui se passent sur l'ensemble du territoire national. Là, on en est environ à 5000, plus de 5000 réunions qui ont été déposées sur le site et 3400 qui se tiendront. Donc on voit bien que les Français, oui, se sont emparés de ce processus. Nous sommes là, nous, en tant que garants, pour regarder si certains grands principes d'inclusion, de pluralisme, de tolérance sont à l'œuvre, et on y est extrêmement attentif. D'autre part, mais ensuite, il y aura bien sûr une seconde période, mais voilà, ça viendra dans quelques semaines, qui est qu'est-ce que l'on fera de tout cela, quelles seront les modalités de restitution de cette parole publique?
Alors, d'abord, il faut expliquer à nos auditeurs, ceux qui ne sont pas encore allés sur le site, puisqu'il y a un site, legranddebat.fr, qui recense donc déjà ce que les Français ont rédigé, puisqu'on peut accéder à ce que les Français ont déjà écrit. Alors, il y a quatre thèmes, la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, et l'organisation de l'État et des services publics, avec également, on va en parler, une autre partie qui est une partie plus libre. Est-ce que déjà le fait de se limiter, de cadrer cela de cette manière, ça n'est pas une manière d'envisager le débat de manière un peu artificielle, Pascal Perrineau?
Vous savez, d'habitude, les débats publics, j'allais dire canoniques, sont toujours organisés sur des sujets extrêmement pointus, extrêmement précis. C'est tel ou tel équipement public, c'est l'enjeu, déjà c'est beaucoup plus large, de la bioéthique, c'est la question européenne. Là déjà, avec les quatre champs que vous venez de décrire, c'est littéralement énorme. Mais il y a, en effet, j'allais dire, à côté de ces quatre thèmes, une cinquième boîte. Les Françaises et les Français peuvent s'emparer d'autres thèmes. Et d'ailleurs, ils le font. J'assiste énormément à des réunions d'initiatives locales. On le voit bien. En général, ça commence avec les quatre grands thèmes. Et très vite, bien sûr, les Français, dans la dynamique du débat et de l'échange, débordent ces limites et abordent bien d'autres thèmes.
Quels autres thèmes ?
Alors, dans les autres thèmes, il y a des éléments qui ont trait par moment à la politique étrangère, ça n'est pas souvent, à l'Europe, ça c'est dû au fait que les élections européennes se profilent, la question de l'éducation, la question de la santé, qui ne sont pas directement à l'agenda des quatre grands thèmes du Grand Débat, sont très souvent abordés dans ces réunions d'initiatives locales. Et bien sûr, dans la restitution, les demandes, les inquiétudes, les préoccupations des Français sur ces thèmes, vous voyez, connexes, bien sûr, seront prises en compte.
Et alors, moi, j'ai trouvé sur le site du Grand Débat des contributions relatives à l'immigration, ce qui m'a surpris, puisque je ne savais pas que c'était dans les thèmes du Grand Débat.
Si, si, ça a été, en effet, il y a eu un débat avant le débat sur cette question migratoire. Alors, sur la question de l'immigration, d'abord, un constat. On le sait très bien, toutes les enquêtes le montrent. Les Français s'intéressent à cette question de l'immigration. Et la perspective, d'ailleurs, des élections européennes, où l'on voit bien que la question de l'immigration est très souvent au cœur des débats nationaux dans les différents pays d'Europe, fait que, bien sûr, les Français, dans le débat, s'emparent également de cette question de l'immigration. Mais, une fois qu'on a dit ça, il faut être extrêmement prudent. Pour avoir assisté à de très nombreux débats, je peux vous dire que je n'ai, jusqu'à maintenant, jamais entendu les Françaises et les Français dans ces débats s'emparer de la question migratoire. Mais en effet, sur le site, ceux qui le veulent peuvent répondre à des questions sur l'immigration, mais qui, pour l'instant, n'est pas au cœur des débats tels que les Français s'emparent du débat.
Alors, écoutez, moi, je suis allé sur le site, donc c'est toujours très compliqué, puisque je n'ai évidemment pas observé toutes les contributions, il y en a plus de 100 000. Mais en cliquant sur un certain nombre de contributions, je suis malgré tout tombé sur des propos relatifs à l'immigration. Alors, il faut dire qu'ils sont modérés, donc ces propos sont tout à fait dans le cadre de la liberté d'expression. Ils sont acceptables, mais ils sont généralement extrêmement hostiles à l'immigration, et notamment à l'immigration musulmane. Est-ce que là, il n'y a pas un virage inattendu, en tout cas d'après ce que j'ai constaté? Alors, c'est très empirique. Je suis pas capable de quantifier le nombre de contributions. Alors, en tout cas, je ne m'attendais pas à trouver cela, Pascal Perrier.
Si vous voulez, comme c'est dans l'opinion publique au sens large, il aurait été étonnant que ça ne se retrouve pas dans la manière dont les citoyens s'emparent du débat. Il y a une charte du Grand Débat, vous y avez fait indirectement allusion, et bien sûr, ce sont des débats modérés. Tout ce qui relève de l'appel au racisme et à la xénophobie est écarté. Hein, faut être clair, et là, les garants peuvent garantir cela. Mais on sait très bien, une fois que la parole se libère dans différents lieux, que ce soit le site du Grand Débat, que ce soit les réunions d'intérêt local, que ce soit les contributions que spontanément les Français adressent à la mission du Grand Débat, il peut y avoir de temps à autre des excès, des dérapages, des positions dures qui sont portées dans ce Grand Débat et qui doivent être aussi étendues. Ensuite, c'est au pouvoir public, mais ça on verra ça après le 15 mars, à apporter la réponse qu'ils entendent apporter.
Alors, évidemment, il n'y a pas de solution miracle, mais comme vous le savez, Pascal Perrineau, ce grand débat, notamment en ligne, puisque à la fois, si on ne fait qu'un grand débat physique, c'est compliqué, mais en ligne, on sait bien qu'avec l'anonymat, puisque les contributions, elles sont anonymes, il faut donner son email, mais après tout, on peut donner un email fantaisiste, on tombe sur des minorités actives. Alors, j'ai par exemple sous les yeux la contribution d'un citoyen qui, lui, n'a qu'une proposition, c'est d'arrêter le 80 km/h sur les routes, qu'il considère comme relevant du racket pur et simple. Est-ce que finalement, on ne va pas avoir droit à une série de minorités actives qui ont un intérêt ou une détestation et qui vont, en quelque sorte, se lâcher sans limite sur ce point ?
Il faut être attentif, en effet, quel que soit le lieu et la nature du débat, à la manière dont les minorités actives, les professionnels aussi de la parole, s'emparent
des associations.
Débat. Les associations, mais bien sûr, bien sûr. C'est difficile, je n'ai pas les données statistiques pour vous répondre aujourd'hui, mais le sentiment issu de 3 semaines où je parcours ces différents lieux du débat sur le territoire national, en regardant attentivement le site, me fait dire que pour l'instant, ces minorités actives et ces professionnels de la parole n'ont pas confisqué le débat. Ce qui est étonnant quand vous êtes, c'est qu'il y a des citoyens qui s'emparent de la parole que j'appellerais, vous m'excuserez du néologisme, les primo-parlants. Il y a quelque chose de très étonnant dans ce débat national. C'est que pour la première fois, vous avez des gens qui prennent la parole dans un espace public. Ils ne l'avaient pas fait. Ils peuvent avoir 30 ans, 40 ans, 60 ans. Ils ne l'avaient pas fait avant. S'il y a une vertu de ce grand débat, c'est celle-là. Comme il y a eu, d'ailleurs, vous l'avez abondamment commenté, dans le mouvement des Gilets jaunes, on parlait de primo-manifestants. Eh bien là, il y a des primo-parlants. C'est-à-dire que ce mécanisme, ce processus du grand débat national a fait accéder à la parole des citoyennes et des citoyens qui n'avaient pas l'habitude de prendre la parole. Et croyez-moi, ces gens-là, ce ne sont pas des minorités actives et vous ne les mettez pas dans le club des professionnels de la parole.
Alors effectivement, il y a un certain nombre de demandes qui sont des demandes que je pourrais qualifier d'inhabituelles, en tout cas dans le débat public. Alors par exemple, j'en ai une sous les yeux, toujours issue de ce site. Un citoyen dit qu'il faut, je le cite, « supprimer en urgence le statut des fonctionnaires » et la titularisation, pas de transfert chez les gaspilleurs de l'argent des contribuables pour la gloriole des élus locaux, donc pas de transfert dans les communes, les départements, bref, pas de transfert dans l'administration locale. Que faire de ces différents commentaires? Là, c'est une proposition qu'on peut qualifier de radicale, Pascal Perrineau. Est-ce qu'il est possible ensuite de faire une synthèse avec une telle myriade de propositions, certaines n'étant pas des propositions consensuelles?
Alors en effet, il y a le défi est majeur. D'abord, il y a une masse de données que nous n'avons jamais connues dans des périodes précédentes en France ni ailleurs dans le monde. Donc il y a une masse de données très hétéroclite. Il y a par exemple ce qu'un citoyen ou un groupe de citoyens dit dans un cahier de doléances, il y a la synthèse de débats sur le territoire national, il y a des réponses à des questions sur le site du Grand Débat National, donc c'est extrêmement hétéroclite. Mais on sait aujourd'hui que l'on a les moyens de traiter ces masses de données, il y a des techniques d'analyse quantitative, sémantique, qui permettront de savoir quels sont les thèmes qui apparaissent le plus souvent, comment ces thèmes se relient à d'autres thèmes, comment ces thèmes peuvent ou non amener à des propositions de solutions de la part des citoyens. Et au fond, le 15 mars, quand le grand débat sera terminé, au fond, le grand défi, ça sera, est-ce qu'on est capable d'avoir une sorte de carte de ce que les Français ont en tête?
Mais alors, là aussi, je vous embête, mais parmi les propositions, il y a énormément de choses sur le volet administratif contre les 80 km/h. Ensuite, il y a des propositions qu'on pourrait qualifier de propositions qui relèvent d'un certain nombre de points de vue. Alors, je ne sais pas s'il faut les qualifier de minoritaires ou pas, mais justement, la question, c'est de savoir si ces minorités s'organisent, se mobilisent, elles vont être quantitativement extrêmement représentées. Je vois, par exemple, des choses sur les langues régionales. Il y a probablement beaucoup de Français qui sont attachés aux langues régionales et à leur promotion. Est-ce que la fréquence d'apparition sur un site peut, en quelque sorte, valoir légitimité démocratique? Comment vous, qui êtes politologue, Pascal Perrineau, allez travailler là-dessus?
Si vous voulez, ces données, ça n'est pas du tout un sondage. Ça n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, il peut y avoir des centaines de milliers de citoyens qui se rendent sur ce site. C'est pas ça qui va faire de cet ensemble de citoyens qui prend part au débat un échantillon national représentatif de la diversité française. Donc, ça n'est pas du tout cela. C'est un processus qui agrège, recense ce que les Français qui rentrent dans le débat...
Parce qu'en fait, il faut accepter de rentrer dans le débat.
Bien sûr. Qui rentrent dans le débat, qui prennent la parole, ce que les Français ont en tête, ça donne, d'une certaine manière, ce que je disais tout à l'heure, une carte, ou ça va donner une carte des préoccupations, des ambitions aussi, espérons-le, pas simplement des inquiétudes, des Français pour l'avenir de leur pays, et ensuite... Ensuite, c'est aux décideurs, c'est-à-dire c'est au pouvoir exécutif, c'est au Parlement, c'est aux collectivités territoriales, qui, vous savez, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas, qui sont aussi beaucoup interpellés dans ce processus de grand débat, de répondre par la loi, éventuellement par un référendum, on en parle, par des décrets, par des mesures qui seront mises en œuvre par ces pouvoirs publics. Là, on recense les demandes, viendra dans quelques semaines l'heure de la réponse institutionnelle par le biais de la démocratie représentative à l'ensemble de ces demandes qui se seront exprimées dans cet espace de délibération qu'est le grand débat national.
Avec probablement là aussi d'autres questions, on va continuer à en parler également dans une vingtaine de minutes, mais avant même de rentrer dans les détails de cela, il y a une vraie question qui est une question d'indépendance. Comment ce grand débat est utilisé aujourd'hui par l'exécutif? Est-ce que là aussi, il n'y a pas un prérequis qui est l'indépendance de ce grand débat? Et dans quelle mesure cette indépendance est-elle acquise, Pascal Perrin?
Alors, si vous voulez, le collège des cinq garants est là, bien sûr, pour tenter de préserver plusieurs principes, parmi lesquels, bien sûr, le principe d'indépendance. Pour l'instant, après l'observation de la manière dont se passe le grand débat sur le site du grand débat, sur sa manière dont ça se passe sur le terrain, sur la manière dont on fait remonter tous ces cahiers de doléances, je parlais tout à l'heure de 9000, qui d'ailleurs ont commencé parfois avant l'ouverture du grand débat le 15 janvier. Si vous voulez, on est dans des situations satisfaisantes d'indépendance pour l'instant. L'État est à la manœuvre pour essayer d'agréger toutes ces demandes de terrain. Par exemple, pour être très concret, comment fait-on avec ces cahiers de doléances? Il va falloir les numériser, il va falloir, pour ceux qui sont écrits, les transformer en documents exploitables. Eh bien ça, sous contrôle du dans les préfectures, sur l'ensemble du terrain, il y aura des bénévoles qui vont transformer en documents exploitables tous ces cahiers de doléances et tous ces cahiers citoyens. Il y a là des principes d'indépendance, un contrôle d'huissier, etc. Vous voyez, pour prendre un exemple tout à fait concret.
Et puis alors, une dernière chose, parce que, donc, je l'ai dit, le site est modéré et donc un certain nombre de contributions vont dans la corbeille, mais on peut les consulter. Alors, il y a des propositions qui relèvent de l'insulte, énormément de choses qui relèvent du racisme le plus évident. Et puis, j'ai par exemple sous les yeux une proposition qui est allée à la poubelle. Cette proposition, en fait, elle se borne à deux mots, Macron démission. Y a-t-il là aussi une prise en compte de ces termes qui, pour radicaux qu'ils soient, sont dans le grand débat, Pascal Perrineau?
Alors, ensuite, il faut être très attentif, en effet, à ce qui peut passer à la poubelle. Dans Macron démission, il n'y a pas d'injure. Cependant, on peut considérer que comme contribution au débat, c'est un peu court.
Mais
que c'est une contribution, voilà, que c'est une contribution débat. Donc, vous venez de sortir, j'allais dire, un détail, mais un détail qui est important. On peut discuter de la nécessité de mettre, par exemple, ce que vous pointez du doigt, à la poubelle.
Pascal Perrineau, on se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer à évoquer ce grand débat. Nous serons en compagnie de Dimitri Courant. Il est doctorant en sciences politiques à l'Université de Lausanne et il a particulièrement étudié la manière dont les grandes démocraties utilisent ces débats citoyens. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. 8h21, trois semaines après le lancement du grand débat, peut-on penser que la démocratie en sortira grandie? Comment peut-on débattre à l'échelle nationale? Et quelles grandes revendications émergent jusqu'ici? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Pascal Perrineau, professeur des universités à Sciences Po. Vous êtes l'un des cinq garants du grand débat national. Et nous sommes également en compagnie de Dimitri Tricourant que j'accueille. Bonjour, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'université de Lausanne et de Paris 8. Et vous avez étudié, Dimitri Courant, la manière dont certains pays ont déjà utilisé le grand débat, notamment en Irlande. Comment ça se passe et qu'est-ce que ça peut donner ?
Oui, bonjour. Alors, la différence principale, c'est que ce genre de processus comme on a en France à l'heure actuelle, là, est assez inédit dans son aspect délocalisé, assez auto-organisé. N'importe qui peut organiser son propre débat sans nécessairement avoir, même s'il y en a dans certains débats, une facilitation professionnelle. Ça veut dire des modérateurs qui s'assurent qu'il n'y a pas de violence symbolique, qu'il y a une répartition de la parole égalitaire entre personnes de statuts sociaux différents, entre personnes de sexes différents, etc.
Donc là, tout le monde peut le faire. D'ailleurs, j'ai le site du Grand Débat face à moi et je peux m'inscrire pour animer une réunion publique.
Voilà. Les processus que moi j'ai étudiés principalement, c'est des processus qu'on appelle de démocratie délibérative. Et il y a une différence assez importante entre les processus de démocratie délibérative et les processus de démocratie participative. C'est l'aspect ouvert ou fermé du débat, on va dire, et la qualité de l'échantillon et la qualité du débat lui-même promu à l'intérieur de ces dispositifs. Donc moi j'ai travaillé principalement en faisant une enquête de terrain de plusieurs années sur le cas irlandais. Il faut savoir que l'Irlande a été très durement touchée par la crise économique, la crise des subprimes. Et à l'issue de ça, il y a eu 3 assemblées successives, assemblées citoyennes qui se sont mises en place. La première qui a été initiée par la société civile, par un ONG qui s'appelait We the Citizen, qui n'avait pas de mandat politique, qui était sponsorisé par des dons philanthropiques, mais qui avait pour but de montrer en fait que les citoyens peuvent délibérer, les citoyens ordinaires peuvent faire des contributions utiles au débat. Mais le principe de toutes ces assemblées, c'est d'avoir un échantillon diversifié, à défaut d'être représentatif totalement, mais diversifié, à savoir des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens plus ou moins diplômés, tirés au sort, qui va donc se réunir pendant un week-end, plusieurs week-ends, si jamais l'assemblée peut durer plus longtemps, auditionner des experts, auditionner des groupes d'intérêt, par exemple sur l'enjeu de l'avortement pour la dernière assemblée. Pour la question de l'avortement, qu'il était au cœur du débat, c'était par exemple Amnesty International qui était en faveur de la légalisation de l'IVG face à l'Église catholique irlandaise qui était contre la légalisation de l'IVG. Donc voilà, ils vont écouter le pour et le contre des experts opposés, des spécialistes par exemple en éthique ou des spécialistes médicaux. Et puis à la fin, ils vont délibérer en petits groupes, puis collectivement, et puis émettre une recommandation de proposition. Donc voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc en Irlande, il y en a eu 3. Donc une première issue de la société civile, auto-organisée par des gens qui n'étaient pas des responsables étatiques. Une deuxième ensuite qui s'est inspirée de cette première expérience pilote qui a été reprise là par le gouvernement et le Parlement, qui s'appelait la Convention constitutionnelle et qui visait à réviser un certain nombre de points dans la Constitution. Il faut savoir que la Constitution irlandaise ne peut être modifiée que par référendum populaire. Donc c'est pas possible de faire une révision parlementaire par un congrès, etc. C'est absolument crucial de consulter la population, donc ce qu'on appelle le maxi-public. Et du coup, dans cette structure politique-là, il est tout à fait logique, finalement, de consulter aussi ce qu'on appelle un mini-public, ça veut dire ces échantillons de citoyens ordinaires tirés au sort, diversifiés. Et donc voilà, donc un certain nombre de thèmes ont été débattus, et notamment en 2015, une des propositions de cette convention constitutionnelle, qui regroupait 66 citoyens tirés au sort et 33 élus des différents partis politiques, qui délibéraient ensemble à égalité, a proposé la légalisation du mariage pour tous, qui a été approuvée par référendum, donc en 2015, par la population. Et ensuite, il y a eu une dernière et une troisième assemblée, là cette fois-ci composée de 99 citoyens tirés au sort uniquement, et qui a notamment délibéré sur la question de l'avortement et a proposé la légalisation de l'avortement, qui a été approuvé par référendum en mai 2018.
Pascal Perrineau.
Alors en effet, cette expérience irlandaise est tout à fait passionnante parce que à grande échelle, on a eu une vraie expérience de démocratie délibérative. Et vous avez bien raison de distinguer ce qui est la démocratie délibérative et la démocratie participative. Nous sommes en France beaucoup plus dans le cadre d'une démocratie participative qui peut cependant avoir recours à l'instrument de la délibération. Et en particulier, il faut bien expliquer à nos auditeurs qu'à un moment de ce grand débat national, qui pour l'instant en effet se déroule sur le territoire, sous différentes modalités d'organisation, avec certes un kit méthodologique qui doit aider les animateurs, etc. Mais nous ne sommes pas dans l'espace de la délibération publique au sens où Dimitri Courant vient d'en parler. Mais en revanche, quand le processus viendra vers sa terminaison, c'est-à-dire à la mi-mars. Il y aura 18 conférences citoyennes régionales. Il y aura 17 conférences dans les régions. France métropolitaine et Outre-mer, avec à chaque fois un échantillon de 100 citoyens tirés au sort avec ce principe de diversification, pas de représentativité, mais de diversification dont vous venez de parler, afin que tous les citoyens, dans leur diversité, puissent avoir droit à la parole plus. Et c'est très important, une conférence citoyenne jeune, parce qu'on sait très bien que les jeunes ne sont pas vraiment très bien représentés dans nombre de débats, et donc ils seront consultés sous cette forme de la délibération.
Et puis alors, vous l'avez évoqué, Dimitri Courant, vous qui étudiez justement la manière dont ces débats s'organisent. Alors en France, ils peuvent être auto-organisés, n'importe quel citoyen peut en organiser un, mais l'on peut aussi avoir recours à des médiateurs, à des animateurs, et nous sommes justement au téléphone avec Dominique Weber. Bonjour.
Bonjour messieurs.
Vous êtes médiatrice, animatrice bénévole du Grand Débat dans le cadre de l'Association Nationale des Médiateurs. Je crois que c'est une association qui comprend 700 membres. Et vous avez animé un débat, Dominique Weber, à Distrof, à côté de Thionville, en Moselle, la semaine dernière, sur le thème de la démocratie et de la citoyenneté. C'était à la demande de la mairie. Comment s'est déroulé ce débat ?
Alors, si vous permettez, merci d'abord de me donner la parole. Et si vous permettez, je vais juste un petit peu corriger l'origine de ce débat. Donc, la mairie, effectivement, comme vous le disiez, avait prévu de faire un débat citoyen et le 2 février. Et en fait, elle a été contactée par un certain nombre de gilets jaunes de la région qui cherchaient une salle, qui cherchaient un endroit pour débattre. Et je dirais que c'est une belle rencontre qui a eu lieu, puisqu'en fait, elle a permis une réelle co-construction du débat. Donc c'est bien la commune de Distrof avec son maire et des gilets jaunes de la région qui ont organisé ce débat.
D'accord. Et alors comment s'est déroulé ce débat ? Qu'est-ce qu'il en est ressorti, Dominique Weber, vous qui avez l'habitude d'animer des débats ?
Alors, l'habitude d'animer des débats un petit peu, mais surtout d'animer des médiations. Alors, lors d'animation de débats comme cela, on utilise évidemment les compétences que l'on développe en médiation, à savoir l'écoute, le respect mutuel, la non-interruption de la parole. En fait, on pose un cadre participatif et coopératif pour ces échanges. Et puis, ensuite, on tient ce cadre avec autorité, mais aussi bienveillance. Donc c'est vraiment ça le travail de l'animateur dans un débat comme celui-là. En tout cas, c'est comme ça que nous, au niveau de l'Association nationale des médiateurs et au niveau de Médiation 21, donc Médiation 21, c'est un collectif d'associations et de médiateurs qui représente le plus grand nombre de médiateurs en France, qui a décidé de se mettre au service de ce débat citoyen, de ce grand débat, en tant que citoyen, animateur bénévole, pour la collectivité, quoi.
Et alors, comment s'est déroulé ce débat, donc, à Distrof, à côté de Thionville, en Moselle, Dominique Weber, vous qui l'avez animé?
Alors, personnellement, j'ai trouvé ça assez fantastique, puisque il y avait moins de 100 personnes, alors que nous espérions un peu plus de monde. Il y avait un peu moins de 100 personnes, une moyenne d'âge relativement élevée, peu de femmes. Je commence par le fait de peu de femmes, vous comprenez bien que ça m'embête un peu. mais des personnes bien préparées, souvent des personnes qui avaient étudié le dossier. Donc nous avons traité à Distrof vendredi la démocratie et citoyenneté. Donc souvent vraiment des personnes très intéressées, qui avaient envie de prendre la parole, qui avaient envie d'échanger et qui, en dépit de quelques cris de souffrance qui ont été poussés, ont vraiment ont su s'écouter, se respecter dans des croyances, dans des valeurs qui parfois étaient très différentes pour les uns et pour les autres. Donc moi je trouve que ça s'est passé de manière relativement sereine. Je dois dire aussi que l'équipe était assez bien. Le fait que ce soit une co-construction a permis que chacun prenne la parole à un moment donné. Monsieur le maire, les gilets jaunes qui avaient organisé, qui de leur côté ont également contribué par leur posture, par leurs interventions, à maintenir le calme. L'animateur n'est pas le seul à maintenir le calme, mais en tout cas,
Pourquoi ? Parce que c'était compliqué de maintenir le calme, Dominique Weber ?
Je dirais non, pas trop. Ça l'a été par moment parce que il y a eu quelques cris de souffrance, que moi j'appelle des cris de souffrance, ou plutôt Jacqueline Morino, qui est médiatrice connue, appelle des cris de souffrance de personnes en grande difficulté qui avaient besoin qu'on les entende, qu'on les comprenne. Et donc là, le rôle de l'animateur à ce moment-là, c'est vraiment de reformuler pour que la personne sente qu'on l'a comprise, qu'on l'a entendue, qu'on l'a comprise. Et je dois dire que l'Assemblée a été remarquable puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment eu beaucoup d'écoute et de respect de part et d'autre.
Dans la manière dont ce débat s'est déroulé, 8h32 sur France Culture, on continue à évoquer ce grand débat. On est en votre compagnie, Dominique Weber, vous êtes médiatrice et animatrice bénévole du grand débat. Le professeur Pascal Perrineau, qui est l'un des garants de ce grand débat. Et puis Dimitri Courant, qui est doctorant et qui a étudié la manière dont ces grands débats se déroulent. Le témoignage de Dominique Weber, qu'est-ce qu'il vous inspire, Dimitri Courant ?
C'est-à-dire que c'est assez intéressant qu'un groupe de personnes qui ont des compétences dans le domaine de la facilitation ou de la médiation ait décidé de participer à ce grand débat, parce que précisément, c'est vrai que quand j'ai été informé, quand j'ai appris dans la presse les conditions de la façon dont ce débat participatif allait se mettre en place sans nécessaire supervision, tout de suite, je me suis posé la question des rapports des faits de violence symbolique, des rapports de domination de genre, qui arrive en fait dans ces débats très souvent quand précisément il n'y a pas de médiation. Et ça, ça va être une des différences qu'on observe souvent entre des débats comme ça ouverts où vient qui veut, et souvent viennent ce qu'on appelle les usual suspects, donc c'est-à-dire plutôt des hommes, plutôt âgés, plutôt diplômés, pas des précaires, pas des femmes, pas des jeunes, etc., et qui ont tendance à avoir une certaine maîtrise de la parole, et parfois à faire des effets, à monopoliser la parole, à faire des effets de violence symbolique, etc. Ce qui est évité dans le cadre des débats irlandais que j'ai étudiés, puisque dans le cadre des débats en Irlande, dans les trois différentes assemblées qui ont eu lieu, il y avait des facilitateurs professionnels à chaque table qui devaient s'assurer précisément que ce genre de comportement était tout de suite cadré. Et puis il y avait des preneurs de notes professionnels aussi qui s'assuraient que la parole citoyenne était bien transmise. Par exemple, une des choses que les facilitateurs faisaient, c'est qu'ils rappelaient au début du débat les principes d'écoute, de bienveillance, de respect. Et puis, quand quelqu'un parlait trop, ils l'interrompaient de façon polie, et puis ils donnaient la parole aux personnes qui parlaient moins. Et c'est vrai que sans ce genre de dispositif qu'on a dans les dispositifs délibératifs, sans ce genre de médiation, parfois il y a des problèmes.
Dominique Weber, sur les thèmes abordés, je rappelle que vous avez animé un débat à Distrophe à côté de Thionville. C'est votre activité, vous êtes une professionnelle de l'animation de débat. Quels sont les thèmes qui ont été abordés et finalement, qu'est-ce qui en ressort ?
Alors, vous m'embêtez un tout petit peu parce qu'en fait, en tant qu'animateur, je ne fais pas la synthèse. Donc, je me suis engagée.
D'accord. Alors, je ne voulais pas vous embêter. Donc pas de synthèse, mais peut-être nous dire en quelques mots quels sont les différents thèmes ou alors peut-être les points abordés qui vous ont le plus frappé, Dominique Weber.
Alors, les points abordés qui m'ont le plus frappé sont peut-être, alors là personnellement, sur l'immigration. J'ai senti une crispation, moi, dans la salle, quand on est arrivé au sujet de l'immigration, comment bien intégrer les personnes, les nouveaux arrivants, quels sont leurs droits, leurs devoirs, quels sont les. Beaucoup d'idées ont germé et je dois dire que dans les idées qui ont germé, est souvent revenu le fait de prévoir un service civique d'une durée relativement longue, 6 mois. Et il y avait une certaine unanimité dans l'Assemblée, même si certains disaient il faut pas accueillir autant d'immigrés que ce qui est prévu ou ce qui est imaginé. D'autres étaient plus en capacité d'imaginer les accueillir, mais tous disaient eh bien il faut les accueillir, mais il faut encadrer cet accueil en nombre et en qualité d'accueil. Il faut pouvoir le faire correctement et avec respect aussi.
Oui, alors pourtant, Dominique Weber, vraiment, je ne veux pas vous embêter, mais alors, ça ne fait pas partie des 4 thèmes. Alors, c'est ce que j'ai noté en regardant sur le site du Grand Débat National, nous en avons parlé tout à l'heure, et il y a effectivement des commentaires sur l'immigration qui, s'ils restent tout à fait dans le cadre de la liberté d'expression, sont des commentaires extrêmement acerbes à l'encontre de l'immigration musulmane. Est-ce que ces mêmes thèmes ont été finalement entendus lors de votre dernière réunion publique ?
Oui, ils ont été entendus, je crois. Alors peut-être pas suffisamment aux yeux de certains, parce que nous étions quand même limités dans le temps, et puis que la prise de parole, comme le précisait la personne qui s'est exprimée juste après, avant moi, ne doit pas être trop longue, donc il a bien fallu de temps en temps recadrer. Mais oui, je crois qu'ils ont été entendus avec des propositions, et ça, je pense que c'est assez fantastique, puisque les citoyens ont fait des propositions.
Un commentaire. Merci beaucoup, Dominique Weber, de nous avoir exposé la manière dont vous avez animé ce débat. Un commentaire, Pascal Perrineau, vous qui êtes l'un des garants de ce débat, thème que nous abordons ce matin.
D'abord, très rapidement, mais c'est essentiel, saluer ce réseau extraordinaire de facilitateurs de la parole. Ces médiateurs, ces garants, ces commissaires enquêteurs qui sont mobilisés et qui font que le débat dépasse la seule fonction d'expressivité. Au fond, ce type de débat participatif, ça a deux fonctions principales. La première, et on le voit bien, il fallait écouter Madame Weber, c'est une fonction de catharsis. Les gens ont besoin de parler, surtout pour des gens qui parfois prennent la parole pour la première fois. Hein, ce que j'appelle les primo-parlants. Hein. Et puis, il y a ensuite une vertu éducative du débat, c'est-à-dire écouter des hommes et des femmes avec lesquels on n'est pas d'accord et dans lesquels on va rentrer dans un processus de co-construction d'un compromis et de proposition. Et on voit bien, même sur ce thème complexe de l'immigration, comment, à distrophe, des gens qui n'avaient pas les mêmes conceptions en ce qui concerne la gestion de la question immigrée pouvaient parvenir à des solutions en commun, à la fois cette volonté d'intégrer, mais une volonté d'intégrer, comme le dit Madame Weber, dans le cadre d'un encadrement, le service civique, c'est-à-dire se poser la question tout de même des moyens de l'intégration. Il y a là une forme d'intelligence collective que, quel que soit le thème, on voit sur le terrain.
Dimitri Courant, votre point de vue là-dessus, sur ce thème, avec peut-être l'ouverture là aussi d'une boîte de Pandore, puisque je le disais tout à l'heure, sur le site internet du Grand Débat, les commentaires sont peu amers, et je ne parle pas des commentaires qui ont été modérés, puisque la corbeille est une corbeille à laquelle on peut accéder, et là, quasiment tous les propos qui se trouvent dans la corbeille sont des propos racistes.
C'est-à-dire que le thème n'a pas été totalement écarté. À l'origine, il avait été considéré comme étant le cinquième thème des quatre thèmes. Puis finalement, suite à la réaction, il a été mis de côté. Mais il a quand même été réintégré par la bande, puisque quand vous allez dans les contributions sur justement démocratie et citoyenneté, les questions sur l'immigration apparaissent. Et vous ne pouvez pas y échapper, en fait. Enfin, vous pouvez choisir de ne pas répondre, mais en tout cas, vous ne pouvez pas choisir si vous postez une contribution sur la question démocratie et citoyenneté sur le site internet. Vous avez des questions sur l'immigration qui vous sont posées directement, il y en a un certain nombre. Donc, le thème figure à la fin de la lettre du président à côté celui de la laïcité, ce qui pose d'ailleurs dans le questionnaire aussi, il y a la question de la laïcité qui est collée plus ou moins à celle de l'immigration, comme si les deux thèmes étaient indissolublement liés. Donc c'est pas non plus totalement un accident de parcours. En règle générale, c'est ça qui est quand même relativement important, et c'est ce que j'essayais de dire dans le très bref papier que j'avais fait sur dans Libération, c'est-à-dire le cadrage du débat est absolument fondamental sur ce qui va en sortir, en fait. L'opération de cadrage, notamment, je renvoie au travail d'Erwin Goffman là-dessus, surtout le travail de cadrage qui est opéré.
Erwin Goffman, qui est un anthropologue.
Oui. contribue beaucoup à ce qu'on peut attendre d'un débat et ce qui va s'exprimer. Une des choses qui est... Là, je suis assez... Enfin, on entend qu'il y a des gilets jaunes qui participent et c'est intéressant, mais une des possibilités aussi... que du coup ce débat ouvert pose, c'est que les gens qui n'ont pas confiance dans l'entité qui organise le débat, en l'occurrence là c'est le gouvernement, risquent de ne pas participer à ce débat-là, et du coup il y a potentiellement, je dis pas que c'est nécessairement le cas, mais c'est un des effets de cadrage possible, un refus, une politique de la chaise vide de la part de ceux qui sont opposés fortement au gouvernement. Et dans les gilets jaunes d'ailleurs, on peut voir des interrogations, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et ceux qui disent, et la majorité, il y a des collègues qui ont montré que une grande partie des gilets jaunes ont dit, nous c'est la rue, nous c'est samedi, et puis ce n'est pas ce débat. Et du coup, à ce moment-là, le risque, ce serait que le débat rassemble des convaincus, des gens favorables, et du coup ça, à nouveau, c'est vrai que dans des dispositifs... dans d'autres cas, et c'est ça qui est quand même relativement important, c'est que l'essentiel des cas que j'ai étudiés, que ce soit l'Irlande, le Canada, etc., c'est des cas où il n'y a pas un mouvement social massif de contestation directe du gouvernement avec des appels à la démission en même temps. Et donc, c'est un cadre assez particulier, celui de la France à l'heure actuelle.
Dimitri Courant, comment éviter dans un débat, d'une part, qu'il y ait des minorités active qui explique de manière recevable ou pas, hein. J'ai une contribution sous les yeux par exemple, un citoyen qui dit il faut que les migrants restent chez eux pour développer leur pays, c'est acceptable, c'est a priori pas le thème du débat. Alors, on peut être d'accord ou pas avec cette proposition, mais du coup on se retrouve avec quand même beaucoup de propositions sur ce thème et puis beaucoup de choses par exemple sur les 80 km/h où là on a énormément de contributions. Bref, comment faire ensuite avec ces propos qui sont quand même très hétérogènes et qui concernent des aspects distincts de l'existence sociale ?
Bah, à nouveau, l'opération de cadrage et la façon dont le débat est structuré va influer. Dans la plupart des débats que j'ai étudiés et qui ont lieu dans différents pays, c'est plutôt relativement précis. C'est-à-dire que, par exemple, la dernière Assemblée citoyenne irlandaise avait 5 thèmes à traiter. L'avortement était l'un des thèmes. Il y avait aussi la question du réchauffement climatique, la question des référendums, la question du vieillissement de la population et la question de la structuration des élections et du Parlement. Donc c'était des thèmes assez précis, il y avait des experts là-dessus. Et on savait, en fait, que le gouvernement allait, et c'est ce qu'il a fait ensuite, potentiellement soumettre ses propositions à référendum pour modification notamment de la Constitution. Et pour avoir un changement fort. Et là, le problème, c'est qu'on a un espèce de flou, c'est-à-dire qu'il y a en effet, comme Pascal Perrineau l'a dit, deux visées qui peuvent être du coup en tension l'une à l'autre. L'un, c'est la volonté de l'expression la plus libre possible, et l'autre, c'est d'arriver à des décisions intéressantes et des propositions qui peuvent être ensuite implémentées en termes de loi. Donc là, le problème aussi, je pense, vient du fait que finalement, la revendication du mouvement social des Gilets jaunes est relativement claire et s'est structurée au fur et à mesure. Et du coup, en donnant l'impression qu'on peut parler de plein d'autres choses, y compris qui ne sont pas directement liées aux revendications des Gilets jaunes, et je pense notamment au référendum d'initiative citoyenne, il y a potentiellement une perception d'élargissement du débat, précisément pour ensuite pouvoir faire de la sélection dans les propositions.
Pascal Perrineau, alors maintenant, la question, une fois que ce débat s'est organisé de manière indépendante, transparente, vous êtes l'un des garants de ce débat, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait après ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? C'est-à-dire, comment faire pour que l'on ait autre chose que des propos, parfois intéressants, mais des propos qui demeurent verbaux ?
Alors, une petite remarque préliminaire et je réponds tout de suite à votre question. Il faut faire attention aux effets pervers de notre propre débat à nous, entre nous trois. Nous parlons beaucoup d'immigration. Nous avons des chiffres aujourd'hui pour répondre. Ce n'est pas du tout l'immigration qui est au cœur du grand débat national. Hein, il faut tout de même. C'est le thème, parmi les 4 grands thèmes que vous défiliez tout à l'heure, parmi les 4 grands thèmes, c'est la fiscalité et les dépenses publiques qui sont la préoccupation, qui est la préoccupation centrale. Les autres sont là, mais on le voit bien quand on analyse les contributions, et maintenant il y en a tout de même 700 000, donc on peut un peu savoir, c'est la fiscalité et les dépenses publiques. Alors ensuite, sur la question que vous posez, il y a au fond 3 temps. En ce moment, qu'est-ce que l'on fait ? On regarde la manière dont sont classés, archiver toutes ces données extrêmement hétéroclites qui remontent du terrain, qui sont envoyées au site, qui vont à partir de la semaine prochaine également être glanées de manière mobile sur le territoire par ce qu'on appelle des stands de proximité. Il va y avoir dans chaque région des stands de proximité qui vont bouger essentiellement et qui vont être dans les postes et dans les gares. Donc tout ce matériel, comment est-il classé, comment est-il archivé ? Deuxièmement, pour que ça soit exploitable, il faut qu'il soit numérisé. Le travail a commencé, mais nous regardons attentivement les conditions dans lesquelles ce travail de numérisation est effectué. Et troisièmement, l'analyse de ces données gigantesques. On n'a jamais vu ça, je parle sous votre contrôle, mais on n'a jamais vu ça. Et donc là, il y a aujourd'hui, bien sûr, des techniques d'analyse sémantique de données massives qui sont à l'œuvre et que l'on va utiliser. Et donc, on est dans la phase aussi où l'on regarde attentivement quels sont les prestataires qui vont pouvoir être mobilisés pour analyser dans des conditions tout à fait satisfaisantes et d'exhaustivité en particulier, hein, qu'il y ait le moins de pertes en ligne. Comment ça sera analysé et sur quoi ça débouche ? Ça débouchera sur une arborescence, une carte des thèmes que les Français ont en tête. Qu'est-ce qui pour eux est important ? Comment ces thèmes s'articulent entre eux et quelles sont également les propositions qui sont, après deux mois de débat, quelles sont les propositions qui sont à l'œuvre sur ces quatre grandes thématiques. Et après, ça n'est plus le travail du grand débat. Ce sont les décideurs qui ont la main, c'est-à-dire le Parlement, l'exécutif et les collectivités territoriales.
Dimitri Courant, qu'en faire de ces propositions, vous qui avez étudié notamment le cas irlandais?
Alors c'est assez compliqué parce que précisément les cas sont quand même relativement distincts. Cela dit, c'est vrai que dans le cas irlandais, notamment dans la dernière assemblée, il y avait des possibilités pour chaque citoyen qui le désirait de faire des propositions à l'assemblée par voie électronique ou par voie papier. Seulement les termes du débat étaient quand même relativement plus clairs. C'était êtes-vous pour ou contre l'avortement, sous quelles conditions, ou alors sur la question du réchauffement climatique, donner des pistes, etc.
Mais c'était des débats sur ce thème, ce qui veut dire que en France, est-il possible de s'en sortir sans référendum? Et je ne dis pas du tout que la question du référendum est une question simple.
La question du référendum est pas une question simple, en effet, mais le problème, je pense, c'est que à nouveau, il y a il y a une construction d'un autre public, si vous voulez. Il y a un public qui existe, et d'ailleurs, il n'y aurait pas le grand débat sans ce public-là, c'est les Gilets jaunes, qui est un public donc mobilisé. Et face à cela, le gouvernement a décidé donc de créer une autre interface et un autre type de public. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est l'analyse par exemple qu'a fait Patrick Champagne sur les sondages, qui construisent une autre forme de l'opinion, qui n'est pas l'opinion mobilisée, qui va être l'opinion de gens qui n'ont pas les mêmes codes et les mêmes modes d'action. Et je pense que peut-être qu'une des choses qui pose question, c'est à quel point parfois le grand débat est un peu en décalage avec les revendications des Gilets jaunes. Je pense par exemple à la question de l'ISF, il a été encore répété à plusieurs reprises qu'on n'en débattrait pas, alors que pourtant c'est une revendication du mouvement social. Le Premier ministre comme le Président ont eu des mots relativement durs à l'encontre d'un pays dans lequel j'habite, à la Suisse, et puis du modèle d'initiative citoyenne, de référendum d'initiative citoyenne.
Vous avez été blessé.
je trouve que peut-être qu'il serait bon de se remettre, quand on a une crise aussi longue, aussi intense, il serait peut-être bon de remettre en question, de poser sur la table la question constituante, en fait. C'est-à-dire que finalement, une des innovations intéressantes étrangères, c'est le cas de l'Islande, où il y a une crise absolument majeure due à la crise des subprimes. À nouveau, l'Islande est très dépendante de son secteur financier et spéculatif. Et puis, un mouvement, un peu à l'instar des Gilets jaunes, un mouvement de contestation du gouvernement et de sa politique se met en place. La société civile met sur pied une assemblée citoyenne, de citoyens tirés au sort, et commence à lancer un processus de constitution, de réécriture de la constitution. Suite à cela, il y a une transition, la gauche revient au pouvoir, et puis lance un processus avec un mandat officiel, cette fois-ci, pas de la société civile. Une constitution est rédigée avec des choses assez intéressante, par exemple le fait que les ressources naturelles de l'Islande ne peuvent pas être privatisées. Et puis il y a un référendum, la population massivement approuve le nouveau texte de constitution, sauf qu'à l'heure actuelle, le Parlement bloque encore l'implémentation du texte, ce qui pose la question en fait tout simplement du rapport de force entre d'un côté société civile mobilisée qui demande des changements et de l'autre côté classe politique qui parfois est prête à faire des concessions et puis parfois préfère bloquer les avancées.
Mais alors, dernière question très rapide, Dimitri Courant, est-ce que vous trouvez que le référendum, son utilisation en Suisse, a été caricaturé par les Français?
Oui, il y a eu d'ailleurs des réactions assez intéressantes de la part de collègues suisses et puis d'élus suisses qui étaient absolument outrés. Précisément, ce que je montrais, c'est que quand on donne la parole au peuple, y compris sur l'avortement, y compris sur la peine de mort, y compris sur le mariage pour tous, eh bien massivement, le peuple est en faveur. On a des exemples en Irlande et en Suisse assez parlants et assez récents.
Un dernier mot au fond, sujet, Pascal Perret.
Très rapidement, on voit qu'on débouche toujours à l'issue de ce type de processus de démocratie participative, de démocratie délibérative, de mouvement social. On débouche toujours sur l'éternelle question, comment articuler la démocratie représentative qui va prendre des décisions légitimes et ses procédures d'expression ou de consultation.
Merci à tous les deux, Dimitri Courant, qui est doctorant en sciences politiques à l'université Paris 8 et à Lausanne, et à Pascal Perrineau, qui est donc l'un des garants de ce grand débat.